Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Si on vous cantonne dans un rôle, soyez très attentif à sortir du rôle ou à regarder en dehors. Deuxièmement, soyez toujours en mouvement. Dès que vous maîtrisez un sujet, c'est le moment de commencer à aller vers le sujet qui suit. Pas un sujet différent, hein, mais le sujet qui est dans le prolongement, de sorte à aller d'un point à un autre et ainsi de suite, sans faire de surplace. Et troisièmement, laissez une chance au hasard pour construire votre carrière. C'est impossible, quand vous avez 20 ans ou même 25 ans, de prévoir tout ce qui peut vous arriver, toutes les choses que vous allez explorer et toutes les opportunités qui pourront venir. Il faut laisser une chance au hasard et des fois ces opportunités qui viendront.
J'entends souvent dire que l'on espère de ce fameux monde d'après qu'il soit un retour au monde d'avant. Ce fameux monde d'avant qui a contribué à réduire la faune sauvage à 4% de la masse des vertébrés sur Terre et qui prévoit une production de plastique qui doublera jusqu'en 2050. Alors promis, je ne reviens pas avec des discours alarmistes, bien qu'ils le soient, mais je donne la parole à Cédric Viani, qui saura mieux que moi vous parler du monde de demain. Du vrai monde de demain, de ce qui le compose et de ce qui compte vraiment. Cédric Viani est souvent présenté comme l'OVNI du 21e siècle. Il est partout, en politique, en science, en littérature, dans l'éducation. Et il est de ces rares personnes qui ne s'engagent pas en politique pour rentrer dans une course à l'ego, mais pour cultiver cette volonté de profondément impacter le monde et de dévier la société vers un avenir plus harmonieux. Dans cet épisode, Cédric Viani nous parle donc de la société de demain, mais aussi du rôle de la chance et du hasard dans une vie, de l'importance d'être curieux, de ce qu'est l'incertitude et de comment jouer avec elle. Bref, je vous laisse avec ce tout nouvel épisode de cette toute nouvelle saison qui vous réserve de belles surprises.
Allons-y.
Bonjour Cédric Viani.
Bonjour Victoria Guillaumont.
Je suis très heureuse de vous tendre mon micro jaune aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Je vous épargne la question de la présentation à laquelle vous êtes exposé tous les jours ou presque, j'imagine.
Allons au plus efficace.
Voilà. Donc, je vais certainement oublier une de vos casquettes, tellement il y en a. Vous êtes un vrai curieux, scientifique, lauréat du prix Fields, professeur, auteur, député de la 5e circonscription de l'Essonne. Est-ce que j'oublie des choses ?
C'est bien, c'est très bien comme ça.
Pour commencer, on va revenir à votre enfance. Est-ce que vous pouvez me parler du petit garçon que vous étiez quand vous aviez 7 ans ? Est-ce que vous étiez timide ? Comment vous vous positionnez un petit peu par rapport aux autres personnes de votre âge ?
D'abord, 7 ans, je me souviens de livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire à 7 ans, parce que sur la page de garde du livre, j'avais écrit un petit texte parlant de mes 7 ans, et c'était les contes de Marcel Aimé, les contes du chat perché. Delphine et Marinette, hein, les histoires de Delphine et Marinette à la ferme, des belles histoires. Et ça va bien avec le petit garçon que j'étais, extrêmement curieux et plongé dans ses livres, et en même temps, plus souvent à la maison ou dans son lit que dehors avec ses copains. Un petit garçon timide, très, très discret. Qui faisait des textes et des dessins exubérants, remplis de monstres, de dinosaures et d'exclamations, toujours écrites en lettres majuscules, mais qui se montrait très très timide.
Et qu'est-ce qui vous inspirait à cet âge-là ? Qu'est-ce qui vous faisait rêver ?
À 7 ans, c'est l'âge des dinosaures.
Ok, et donc là, vous me parlez de littérature et l'amour des mathématiques. Elle arrivait quand ?
Depuis toujours, j'ai pas souvenir d'un âge où ça m'intéressait pas. Un de mes plus anciens souvenirs, c'est un test pour l'entrée en sixième, je crois,
ouais.
Avec des formes géométriques à classer ou je ne sais quoi. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant.
Quand on vous parlait de la vie des grands, vers 18 ans, qu'est-ce que ça vous évoquait?
Vous voulez dire les grands auteurs, les grandes femmes, les grands hommes?
La vie d'adulte.
Ouais. Ben, pas grand-chose non plus, je dois dire. J'ai toujours été du genre, on verra bien ce qui se passera ensuite, sans vraiment me poser de questions sur mon avenir. De temps en temps, hein, quand on me disait quel métier... vous savez, à l'école, on vous fait remplir les petites fiches.
Oui.
Quel métier vous ferez
Des fiches qui font très peur.
Oui, et puis je me souviens d'avoir répondu une fois à l'école primaire, je ne saurais plus en quelle classe, je serai professeur, parce que papa et maman sont professeurs. Je me souviens d'avoir répondu une fois, je serai ingénieur, parce que je voulais être dans les sciences. Je n'ai jamais répondu chercheur, je ne savais même pas que le métier existait. J'avais en tête que voilà, j'allais approfondir en fonction de ce qui se dessinait. J'ai fait des études supérieures en mathématiques, tout simplement. Le système me poussait à faire ça. Je suis entré à l'école normale supérieure, c'était naturel. Mes petits camarades me disaient « Toi, c'est normal que tu ailles à l'école normale supérieure. » Et puis je me suis retrouvé à 19 ans à l'école normale supérieure, sans savoir ce que je voulais faire de ma vie, mais littéralement. Et puis ça a été une nouvelle phase. Je me souviens que c'est le jour de la rentrée que j'ai découvert que j'allais être payé, et je m'étais même jamais posé la question. Alors évidemment, mes parents n'étaient pas spécialement riches, mais pas pauvres non plus. Ils étaient enseignants en lycée. Et je m'étais juste jamais posé la question, ni de mes revenus, ni des salaires, ni de quoi que ce soit. Juste continuer à étudier.
Donc en fait, vous avez toujours écouté ce qui vous plaisait sans vous poser la question de la résultante, de où est-ce que ça allait vous amener?
C'est arrivé plus tard. Alors mes états d'âme, ils sont arrivés plus tard.
À quel âge?
À 20 ans, 21 ans. J'ai même eu une vraie crise de vocation scientifique quand j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'est l'époque où je me suis fait élire président de l'association des élèves à l'ENS. C'était l'époque où je me suis demandé si vraiment j'allais continuer les études de sciences. J'avais une vraie crise de vocation, une crise de foi, comme on dit.
Comme on a beaucoup à 20 ans. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé à cet âge-là pour répondre justement à ces questions un petit peu existentielles?
D'abord, c'était une époque où j'étais devenu extraordinairement social. C'est quasiment le virage à 180 degrés par rapport au petit garçon timide de 7 ans ou 10 ans. Là, c'était le président de BDE, habillé de façon extravertie, qui connaissait la moitié de l'établissement, qui passait son temps dans les fêtes, dans les squats, dans tout ce que vous voulez.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'introverti à très sociable?
Il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier. C'est la marche naturelle des événements. Le fait de me retrouver plongé en classe prépa, qui paradoxalement a été un grand désinhibiteur social. Puis arrivé à l'ENS, c'est une ambiance très particulière. Et puis c'est venu comme ça. Je ne saurais pas dire quelque chose de plus intelligent. Et puis, en revanche, avec des grandes interrogations sur l'avenir, qu'est-ce que j'allais faire? Et puis, vraiment, je me demandais, est-ce qu'il y a une utilité à mathématiques? Est-ce que je ne serais pas plus utile à faire autre chose? Est-ce que je ne vais pas devenir lobbyiste? Est-ce que je ne vais pas faire une carrière dans l'administration? Et ce qui m'a sorti du... J'étais en début de thèse, on va dire, la fin de DEA, début de thèse, quand il y avait toutes ces grandes interrogations. Et ce qui m'a ressorti de là, c'est d'une part... La façon qu'avait mon directeur de thèse de me secouer, il faudrait se mettre au travail, parce que vraiment, ça n'avançait pas, je faisais plein d'autres choses. Et puis, ça paraît trivial comme motif, mais on m'a fait miroiter un poste à l'ENS, un poste d'agrégé préparateur. Il s'agissait de continuer ma carrière professionnelle au sein de l'ENS, plus en tant qu'élève, mais en tant qu'enseignant, apprenti enseignant, avec des élèves dont il fallait s'occuper. Enfin bref, une sorte de métier intermédiaire entre élèves et enseignants. Je ne savais même pas que c'était possible, envisageable pour moi. D'un coup, ça m'a remis au boulot. Vraiment, c'est la carotte. Si votre thèse avance bien, eh bien, vous pourrez postuler à un poste d'agrégé préparateur, parce qu'il y a un poste qui se libère, vous avez le bon profil, vous avez eu des bonnes places au concours d'entrée. Alors si votre thèse avance bien, vous pourrez avoir le poste. C'était la carotte. Je me suis remis au boulot du jour au lendemain.
Donc est-ce que pour vous, il faut justement des phrases comme ça qui bousculent un peu, des phrases un peu fortes comme « il faut travailler pour avancer » ?
Ça, c'est le bâton, il faut travailler. Mais vraiment, c'est la carotte. Vous pourrez décrocher le poste. S'il n'y avait pas eu le poste à la clé, je crois que je ne me serais pas mis au boulot. Peut-être que j'aurais continué en essayant une carrière dans la haute administration, on va dire, dans la suite de mon poste de président de BDE. C'est possible. Et ce qui est certain, vraiment, je pense, à l'époque, mon tuteur s'appelait Yann Brenier. C'était un mathématicien important qui m'a beaucoup influencé. S'il n'était pas venu me rechercher par le paletot, je pense que j'étais perdu pour les sciences.
Vous disiez juste avant que, donc vers 20 ans, vous cherchez un métier qui soit utile. C'est quoi pour vous être utile ?
Il y a toutes les définitions que vous voulez, mais
et la vôtre, laquelle ?
À cet âge-là, des recherches mathématiques qui puissent être employées dans une visée technologique, dans la visée d'avoir le plus d'applications possibles. C'est pour ça que quand il a fallu faire des... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dirigé vers les équations aux dérivées partielles, alors que c'était pas mon trip quand j'étais étudiant en mathématiques. J'étais attiré au départ par des disciplines beaucoup plus abstraites. Théorie des nombres, algèbre. En classe préparatoire, c'est l'algèbre, ma matière forte. Et puis d'un coup, là, c'était plutôt les équations dérivées partielles, oui, une façon d'expliquer le monde, des applications à la physique, à la biologie, à tout ce que vous voulez. Et c'est une des questions que j'ai posées à mon directeur de thèse quand il a commencé à me parler de l'équation de Boltzmann. Est-ce que ça sert ? À qui ça sert ? Et il m'a dit, c'est utile pour les navettes spatiales, c'est important pour l'aéronautique à haute atmosphère. Finalement, si je suis tombé amoureux du sujet, mais vraiment,
oui.
La grande passion, c'était pas à cause des utilités, c'était à cause de la beauté intrinsèque du sujet. Mais une fois que j'étais accroché par les applications possibles, je suis juste tombé en arrêt devant la beauté formelle, intellectuelle, de cette équation dans l'histoire des idées, toutes les grandes problématiques qu'il y avait derrière, toutes les connexions avec d'autres branches des sciences.
Le hasard, la chance, vous en pensez quoi ? Quel rôle ça joue dans une vie ?
Non seulement c'est majeur, mais c'est un des rares conseils que je donne toujours aux jeunes. Quand je suis invité dans une remise de diplôme ou autre, souvent c'est quoi ? Vos conseils pour les jeunes qui se lancent dans la carrière, je réponds toujours les mêmes trucs. Premièrement, vous ne laissez pas enfermer dans une case. Et si on vous cantonne dans un rôle, soyez très attentif à sortir du rôle ou à regarder en dehors. Deuxièmement, soyez toujours en mouvement. Dès que vous maîtrisez un sujet, c'est le moment de commencer à aller vers le sujet qui suit. Pas un sujet différent, hein, mais le sujet qui est dans le prolongement, de sorte à aller d'un point à un autre et ainsi de suite, sans faire de surplace. Et troisièmement, laissez une chance au hasard pour construire votre carrière. C'est impossible quand vous avez 20 ans ou même 25 ans, de prévoir tout ce qui peut vous arriver, toutes les choses que vous allez explorer et toutes les opportunités qui pourront venir. Donc, il faut laisser une chance au hasard et des fois, ces opportunités qui viendront. Ça a dû arriver au moins une dizaine de fois dans ma carrière quand t'arrives sorti de... Mais vraiment, de n'importe où, surgissant de nulle part, le truc qui se présente à moi, qui me pose un choix et vous dites « est-ce que je le prends ou pas ?» Oui, finalement, on va essayer. Je n'avais pas pensé, mais c'est venu comme ça. Parfois, c'est un collaborateur qui surgit du néant, qui se présente avec vous avec un problème que vous ne soupçonniez pas. Eh bien, en avant, on va faire un article ensemble. Parfois, c'est l'idée parce que vous discutez. Et puis, il y a un truc qui se présente qui n'était pas prévu, mais ça s'avère plus important, plus riche et finalement beaucoup plus important que votre conversation initiale. Et je peux citer plein d'exemples comme ça.
Est-ce qu'on peut le provoquer, le hasard ?
Oui.
Comment ?
Moi, on peut aider en étant curieux, en se trouvant à plein d'endroits, en discutant avec plein de monde, en répondant aux courriels bizarres, alors qu'il semble juste la chose rationnelle à faire que de ne pas répondre. Souvent, effectivement, il ne faut pas répondre. Mais parfois, c'est le grand truc.
Qu'est-ce que vous entendez par courriel bizarre ?
Bah... Je sais pas, je me souviens de ce courriel bizarre qui arrive. Je vous ai vu dans une émission. Peut-être vous êtes la réponse. J'attends quelque chose. Mais avant tout, je vous demanderai de signer une décharge, un engagement de confidentialité parce qu'il faut surtout pas que ça s'ébruite ou je sais pas quoi. Le mail qui arrive, genre parano. Vous êtes là, vous êtes très occupé, vous avez plein de choses à faire. Vous dites non, bon, finalement. Bon, allez, on va bien voir de quoi il est question. Bon. Finalement, c'est la personne en question, c'est quelqu'un avec qui j'ai pendant 10 ans, fait équipe sur différents projets, qui m'a aidé sur certaines choses, que j'ai aidé à constituer des conseils scientifiques pour telle ou telle technologie, avec qui je suis encore embarqué dans un projet entrepreneurial technologique qui aboutira peut-être pas ou peut-être, mais en tout cas une vraie belle rencontre. Et vraiment, le réflexe normal en ouvrant l'email, c'était de dire bon, encore un fou, je laisse de côté.
En fait, j'ai le sentiment que vous n'avez jamais eu peur de ce que l'avenir allait vous réserver. Vous avez toujours eu entière confiance en ce qui allait se mettre sur votre route.
Souvent, et la psychologie, d'abord la psychologie de l'ancien timide, souvent, je crois, c'est quelqu'un qui, par principe, quand il y a une difficulté ou un truc qui implique une prise de risque, il va mettre un point d'honneur à ne pas reculer devant le risque. Des fois, ça m'a pu me mettre dans des situations intenables, ça. Il faudrait s'arrêter, mais non, on continue. Il n'est pas question de reculer devant l'obstacle. Bon. Et parfois, ça a été bien. J'aurais jamais décroché la médaille Fields sans ce type de psychologie dans lequel on avance et on avance, même quand tous les obstacles sont là, même quand la rationalité vous recommande de passer à autre chose, vous continuez à vous entêter. Pour autant, par rapport à ce qui est de l'avenir, je pense que l'attitude rationnelle aujourd'hui, c'est d'être vraiment extrêmement inquiet par rapport à l'avenir. Je veux dire, la société, l'écologie, l'environnement, on a une telle accumulation de nouvelles catastrophiques, aussi bien sur le front de l'environnement que sur le front de la géopolitique, que l'attitude rationnelle, c'est l'inquiétude ou même la terreur. En même temps, comme on sait, pessimisme, optimisme, sont pas, c'est rarement la rationalité qui dicte ça.
Bah vous m'amenez mon prochain sujet, donc c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, de la société actuelle? Pour vous, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans nos modes de vie?
Tout cloche.
Mince. D'abord... Oh non, faut pas dire ça, c'est horrible.
Bon, en tout cas, pour ce qui est du mode de vie, on continue à vivre sur les fondamentaux acquis dans une époque où le monde était illimité, avec des ressources infinies. Et on continue comme si de rien n'était, agir comme si on avait un accès illimité à l'énergie, un accès illimité au confort, une volonté indéfinie de confort sanitaire, une volonté, un accès indéfini à la nourriture, à l'exploitation animale, à l'exploitation des sols, à l'exploitation de l'énergie, la capacité de polluer tout ce que vous voulez, sans tirer les conclusions objectives de ce qu'on voit à travers le monde, de ce qu'on voit qui est la... l'éradication du vivant, éradication en différents sens, mais non seulement l'effondrement de la biodiversité, mais la confiscation de la biomasse terrestre, la biomasse vertébrée par l'humanité, au sens où la faune sauvage aujourd'hui, il y a des estimations qui vous disent que la faune sauvage aujourd'hui, c'est 4% de la masse des vertébrés sur Terre. 4%. Tout le reste, c'est la faune domestique, la faune d'élevage, les humains, tout ce que vous voulez. Nous avons juste confisqué la vie animale. C'est quelque chose de phénoménal, complètement, complètement en décalage avec notre imaginaire dans lequel on se construit quand vous êtes petite fille, petit garçon, à partir des histoires sur la faune sauvage, sur les animaux, sur tout ce que vous voulez. Bon. On ne tire pas de conséquences de des ravages des gaz à effet de serre. Vous allez me dire, mais oui, mais on le sait, on le répète, on l'a compris. Non, regardez les consommations mondiales. Regardez la production de plastique, elle continue à croître exponentiellement, on s'attend à ce qu'elle double d'ici 2050. La consommation énergétique, elle continue à augmenter. Enfin bref, l'attitude rationnelle, quand vous regardez tout ça, hein, ça s'appelle la décroissance. Ça veut dire couper, réduire de façon énergique les flux de matière, les flux de production, les flux de consommation énergétique, revoir, rechambouler tout notre mode de vie. Mais on n'en prend pas le chemin. On a pu croire, quand on était dans le Covid, que d'une tragédie allait naître de bons comportements et qu'on allait en tirer le son. La réponse est non. Dès que les confinements ont été levés, il y a eu un rebond phénoménal et tout le monde s'est mis, toute la société s'est mis à espérer un retour au monde d'avant, qui est une situation de déséquilibre intenable. Effectivement, il y a des progrès sur d'autres domaines. Quand on regarde globalement sur l'accès à l'information, sur l'accès à l'éducation, il y a des tendances de fond qui vont dans la bonne direction. Quand on regarde globalement la démocratie dans le monde, on est en recul, là, c'est très clair. On était en progrès dans les années 80, 90, puis 10 ans, 15 ans, on est en recul. Et la crise du Covid a été l'occasion d'un recul important à travers le monde, avec des indicateurs de démocratie dans le monde qui se sont dégradés très nettement, Et quand vous regardez l'évolution de certains pays qui étaient en cours d'ouverture, qui sont maintenant en cours de fermeture, des grands pays importants dans le monde, je parle de l'Iran, je parle de la Chine, je parle de l'évolution des post-printemps arabes, il y a tout lieu d'être inquiet.
Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas massivement pour la cause écologique? Est-ce que c'est le fait que soit c'est plus compliqué qu'on ne le pense parce qu'on est dans un monde mondialisé où c'est très difficile de faire passer certaines lois? Est-ce que c'est tout simplement qu'on ferme les yeux parce que ça fait peur? Pour vous, quelle est la raison qui fait que finalement on continue à foncer dans le mur alors qu'on sait pertinemment que c'est plus la voie qu'il faut prendre?
Il y a un ensemble de raisons. Le refus de voir les choses en face quand c'est trop douloureux, collectivement, en est une. Et c'est collectivement, je veux dire, quand il y a certaines conclusions logiques qui arrivent, même si, par exemple, tel décideur ou tel gouvernement dira « on va faire ceci », vous avez tout de suite des voix qui s'élèvent pour dire « c'est de la folie, vous ne vous rendez pas compte ». Avec toutes sortes de mauvais arguments, si on change ici, les autres vont avoir un avantage sur nous, ou la France ne représente que 1% du total mondial, à quoi ça sert de changer, etc., etc. Il y a un très bon tweeto qui s'appelle « Bon pote » que vous devez connaître, oui. Qui est très très efficace pour déconstruire ce genre de discours et pour travailler sur la prise de conscience, et qui s'est dit un jour « je vais consacrer toute mon activité à travailler sur la prise de conscience », et ça c'est majeur. Et comme il s'agit dans la transition écologique de changer tous les modes de vie, sont des habitudes, sont des modèles économiques, il y aura toujours des intérêts pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Et pour tâcher de convaincre que ce n'est pas le bon moment. Selon une expression que j'ai apprise de mon ami l'eurodéputé Pascal Durand, tous ceux qui vous expliquent que c'est bien de faire ce changement, mais pas maintenant. Pas ici, pas comme ça. Et ça se décline sur tous les tons.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de l'individu?
À l'échelle de l'individu, d'abord, prendre conscience, passer le mot, vous lire, vous informer. Moi-même, sur ces sujets, enfin, mon discours est bien plus alarmiste qu'il y a seulement 3 ans. À force de lire, à force de voir, à force de me rendre compte aussi de la résistance au changement, j'ai eu la conviction qui s'est faite qu'il fallait que ça allait pas se faire de façon douce, souple. Les intérêts qui freinent, qui sont là pour faire en sorte qu'on ne change pas, sont tellement puissants que si vous n'y allez pas de façon énergique, il ne se passera vraiment rien. À l'échelle individuelle, il y a aussi des comportements à revoir. L'action sur l'alimentation est l'un des plus intimes et l'un des plus efficaces que vous pouvez faire.
Vous êtes végétarien ?
Je suis végétarien. C'est une évolution récente. Ça fait un peu plus d'un an, quelque chose comme ça, que je suis végétarien. Avant, je suis devenu flexitarien il y a 3-4 ans, mais avant, c'était un sujet même pour moi qui n'existait pas. Quand on me disait, il y a 10 ans, l'évolution normale du monde, c'est de devenir végétarien, je disais, comment ça? Mais non, enfin, j'y croyais juste pas. C'était pas dans mon radar. Et encore plus avant, je me souviens de la première fois qu'en famille, on est allé dans un restaurant végétarien, en famille, en déplacement en Grande-Bretagne. J'avais peut-être 18 ans, mon père s'est enfui, effrayé de cet antre de perdition qu'était un restaurant végétarien, quelque chose qui, pour une sorte de sacrilège, je ne sais pas. Pour lui, un repas, viande ou poisson, et d'ailleurs c'est la définition du repas gastronomique à la française, tel qu'il est inscrit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'était tellement ancré dans les habitudes, ça paraissait une énormité, une absurdité. C'est une prise de conscience récente pour moi.
Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont un peu sceptiques du végétarisme, c'est par habitude, par culture, ou parce que vraiment ils pensent que ça peut avoir un impact négatif sur la santé et qu'on a besoin de manger de tout?
C'est un peu tout ça, mais par habitude et par culture, ils sont convaincus qu'on en avait besoin, qu'on ne pouvait pas faire sans, etc. etc. Ce sont des choses très, 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 très ancrées. Il n'y a qu'à voir l'extraordinaire prudence des autorités sanitaires françaises quand il s'agit de donner un avis là-dessus. Oui, on va constituer un groupe de travail pour voir comment faire, etc., par rapport à d'autres. Les autorités médicales américaines, par exemple, ça fait longtemps qu'elles ont admis, voté, fait passer des avis disant que l'alimentation végétarienne est compatible avec la bonne santé à tous les âges de la vie. Il peut y avoir débat sur le véganisme. Mais végétarien, dans une optique où vous acceptez les œufs, voire les laitages, il n'y a pas débat. maintenant. Il faut, honnêtement. Et puis, il y a tellement de monde, tellement de gens à travers le monde qui s'y sont mis. S'il y avait un quelconque problème pour la santé, ça serait vu.
Est-ce que pour que ce soit... Donc là, on prend le sujet du végétarisme, mais que ce soit quelque autre sujet, est-ce qu'on l'accepte qu'une fois que c'est accepté par une masse assez importante de la société? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait beaucoup de monde qui le mette dans leurs habitudes pour que ce soit accepté comme quelque chose de normal? Ou est-ce qu'on peut aussi trouver ça normal, même si c'est qu'une petite portion des gens qui en sont convaincus?
Je pense que...
Ma question n'est pas très claire.
Mais... Normal, d'abord, on sait bien que c'est un mot piège. Qu'est-ce que ça veut dire,
c'est
normal?
C'est quoi la normalité?
Surtout pas... Enfin, c'est un concept que j'évite d'employer. Parce que... qu'est-ce que ça veut dire? On est... Et j'espère bien faire la promotion du respect de l'individu qui s'assume dans ses choix, même s'il est isolé dans une communauté. On peut continuer sur le végétarisme. On sait qu'il y a eu, à différentes époques, des prises de position sur le végétarisme qui parfois étaient individuelles, parfois collectives. C'est très loin, hein. Ça remonte au moins à Socrate, voire à Pythagore, les plaidoyers pour le végétarisme, avec des arguments variés. Mais prenez un auteur politique comme Élisée Reclus, grand penseur anarchiste du 19e siècle, qui fait du végétarisme un combat politique très très isolé à son époque et qui en a bien conscience et peu lui importe et il l'assume et il dit voilà, il n'y a aucune raison que notre amour de la société n'inclut pas tous les êtres vivants, il n'y a aucune raison que nous en soyons réduits à tuer des animaux si c'est pas nécessaire et de toute façon les nourritures les plus nobles ce sont les germes, les graines, les fruits, toutes celles qui portent en elles une sorte de regain de vie, de renouveau, et ça suffit parfaitement à l'humanité pour survivre, et donc j'assume. Il écrit des essais sur le végétarisme et ainsi de suite. Bon, pour moi c'est une attitude parfaitement normale. C'était un rebelle, oui, étayé, rationnel et tout ce que vous voulez, et même faisant pas, et dans sa prise de position aussi, ne faisant pas mystère qu'il y avait des aspects affectifs. Il évoque le cochon de la famille pour lequel sa tante s'était prise d'affection et que les villageois étaient venus de force embarquer pour le saigner, et montrant bien que là, sa tante était seule face à la multitude qui trouvait ça normal d'égorger le cochon, et pour autant, l'attitude de sa tante lui paraissait parfaitement normale.
Vous avez employé « normal » à plusieurs reprises.
Voilà, ici pour dire, mais justement, ça lui paraissait, ça lui semblait normal aussi.
Et pourquoi on dit de vous que vous êtes un ovni, à votre avis ?
Peut-être parce que j'ai toujours refusé les cases, peut-être parce que j'avais mis au point mon dress code, ma façon de m'habiller assez à moi. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin, comme vous le voyez, mais la montre à gousset est toujours là, l'araignée est toujours là, la lavalière a disparu, surtout aujourd'hui il fait beau. Mais ça, c'était quand ? Vers mes 21 ans, l'époque où je me cherchais, où je me suis dit, il faut aussi que je trouve ma façon de m'habiller. Et avant ça, je m'habillais, jean, basket. J'avais les Stan Smith, mais dans les années... C'était bien avant le revival, hein, c'était dans les années dans les années 90. J'avais une espèce d'anorak déchiré, ou tout ce que vous voulez. Enfin bref, le taupin qui met un point d'honneur à pas bien s'habiller. Et puis, à 21 ans, mais bon sang, il faut que je trouve. Puis j'ai expérimenté. Le jabot, le médaillon, la lavalière, le gilet argenté, un peu tout. Et puis je me dis, voilà, c'est moi, c'est comme ça, en avant. Ça faisait un peu, pour certains, c'était un gage de bizarrerie, de crackpot, voire de rébellion assumée. C'est même pas une rébellion, c'était juste comme ça. Je trouve ça bien, je trouve ça beau, je vais m'habiller comme ça, et puis voilà.
J'ai quelques dernières petites questions philosophiques. Les rencontres, quelle place vous accordez aux rencontres dans votre vie ?
C'est peut-être les trois quarts de ce que je suis et de ce que je suis devenu. Alors, je vous ai parlé à l'instant de comment j'ai décidé de m'habiller, mais c'était rencontre avec une publicité. C'était une rencontre aussi. Mais dans ma carrière de recherche, ça a été la rencontre. Il y en a que je peux citer, hein. Le jour où j'ai rencontré Michel Ledoux, le jour où j'ai rencontré Félix Otto, le jour où j'ai rencontré John Lott.
Par hasard ?
Et à chaque fois, alors par un hasard un peu provoqué, parce que j'étais dans telle université en déplacement, parce que j'avais publié tel bouquin, parce que je m'étais fait remarquer. Mais oui, c'était de hasard, c'était pas repéré sur un truc, c'était pas une appli de rencontre, c'était vraiment, j'étais là, au bon moment. Je dis souvent, j'ai dit, pour une carrière de recherche, la faculté d'être là au bon moment, avec la bonne question. Et je saurais pas tellement l'expliquer. Le hasard de la rencontre avec Europa Nova juste après la médaille Fields, c'est ça qui m'a lancé à militer dans le fédéralisme européen. Encore aujourd'hui, je me définis comme un fédéraliste. C'est en accord avec ma carrière de mathématicien, c'est logique. Mais s'il n'y avait pas eu la rencontre avec le directeur général d'Europa Nova en 2010, je n'aurais pas milité sans doute. De là, la rencontre avec Emmanuel Macron, sans quoi sans doute je n'aurais pas milité à l'époque de En Marche. Sans quoi je ne me serais pas lancé dans la carrière de député. J'avais refusé quand on m'a proposé d'être député. Et puis, il y a eu une fausse nouvelle dans la presse, comme quoi j'étais candidat. Je n'ai pas voulu la démentir. De fil en aiguille, je me suis vraiment retrouvé à candidater, vraiment retrouvé député. De fil en aiguille, j'y ai trouvé de nouveaux engagements. Je ne serais pas devenu végétarien, sans doute, peut-être pas. C'est l'engagement politique. Quand j'ai approfondi ici, approfondi, lu, réapprofondi, été au contact de personnes qui étaient engagées là-dedans, je me suis retrouvé finalement encore plus engagé qu'eux. Où finalement j'ai renié le mouvement pour lequel j'étais, En Marche, considérant qu'ils étaient juste pas assez engagés sur les questions écologiques. La part de hasard et de rencontre, la part de rencontre qu'il y a là-dedans est considérable.
Ça donne beaucoup d'espoir. Vous dites que quand on commence à maîtriser quelque chose, c'est qu'on doit faire le pas suivant.
Oui, je crois vraiment.
Pourquoi ?
Parce que sinon, on court le risque de devenir le spécialiste, celui qui va s'enfoncer dans son rôle, qui va être vraiment assigné à résidence sur son sujet. C'est peut-être une hantise qui m'a suivi, qui a fait que j'ai bougé. Au début de ma carrière, j'étais en mathématiques très spécialisé. L'équation de Boltzmann et les 2-3 questions posées par mon directeur de thèse au début, très très focus là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu très diversifié. Parler de la construction, oui. J'ai été très influencé quand j'étais jeune par les mangas à la japonaise. Et j'ai toujours considéré que c'était une culture extrêmement importante. Sur le tard, je me suis mis au manga écrit. Gamin, c'était les dessins animés. La règle la plus fondamentale du genre manga, c'est le refus du manichéisme. Venant d'auteurs qui sont passés par tous les questionnements japonais sur le mal, le bien, la guerre et tout ce que vous voulez, c'est normal. Dans un manga qui se respecte, le pire des salopards va avoir son moment de rédemption, le moment où il va le plaindre, le moment où il va montrer une face humaine, alors que vous ne trouvez pas ça dans les dessins animés occidentaux. Méchant reste un méchant très méchant. Je suis complètement dans ce refus du manichéisme et je me suis jamais résolu à voir le mal. Parfois, c'est un handicap, vous allez me dire, en politique, où on a besoin de se trouver des ennemis et de les affronter. Je revendique que non. Et je dissocie complètement le fait qu'on peut être acharné sur une cause, acharné contre un intérêt et en même temps trouver des excuses ou ne pas accabler les personnes qui sont là-dedans.
Comment vous faites pour trouver le bon chez chacun ?
Ça, c'est un état d'esprit. C'est une, je ne peux pas le dire autrement, mais...
Vous l'avez cultivé, cet état d'esprit, ou il est en vous depuis tout petit ?
Il y a eu une... J'ai des souvenirs confus de moi enfant. Non, tout petit, je ne l'avais pas, en tout cas. Tout petit, je me souviens qu'il y a ça, je pouvais avoir, il pouvait y avoir des gens que je haïssais ou que je méprisais. Et il y a eu une époque où, gamin, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'ai décidé de faire ce travail et que non. Je n'ai pas de raison de haïr telle ou telle personne, je n'ai pas de raison et je dois revoir ça. Je ne saurais vraiment pas vous dire sous l'influence de qui ou de quoi c'était.
C'est drôle. J'aurais encore tellement de questions, mais je vois que le temps passe, donc je vais vous poser la fameuse question du podcast, même si vous nous en avez déjà donné pas mal des conseils. Mais en quelques mots, le conseil principal que vous aimeriez donner aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi ?
Je vais être super je vais faire preuve d'un orgueil démesuré en recommandant un bouquin que j'ai écrit.
Ah, mais il faut.
Ça s'appelle Les Rêveurs Lunaires. C'est une bande dessinée que j'ai faite avec le dessinateur Edmond Baudouin, un génie dans sa partie. Ça retrace les parcours très émotifs, des scènes très émotives dans lesquelles quatre grands innovateurs se retrouvent, ont joué un rôle, se retrouvent face à eux-mêmes, à des périodes très émotives de leur vie. Ils ont joué un rôle très important dans l'ombre, dans la Seconde Guerre mondiale. On voit leurs réponses, qui sont toutes personnelles, face aux grands dangers, comment ils voient les choses. En particulier, je recommande le chapitre où on voit Léo Szilard, un physicien extraordinaire, un grand personnage juif errant qui a joué un rôle majeur dans la mise au point de la bombe atomique, puis qui est devenu un grand, grand militant international anti-nucléaire. Et sa façon d'appréhender la difficulté avec l'idée que même face au désespoir, il faut lutter, trouver la marge étroite d'espoir sans jamais, jamais baisser les bras, venant de la part de quelqu'un qui a affronté les pires calamités, je crois que c'est quelque chose qui peut être inspirant. En tout cas, lire sa vie, c'est quelque chose qui a été pour moi extrêmement inspirant, très au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer comme fiction. Hein. Quand j'ai entendu parler de lui, je me suis dit, je vais faire un truc romancé là-dessus, je n'avais pas besoin. La réalité dépassait de loin ce que je pouvais imaginer comme fiction. Et c'est ce genre de profil, je crois, de grands exemples de personnages qui, face aux pires difficultés, ont su garder leur âme d'enfant, leur espoir, toujours concilier le regard sans concession sur la réalité avec l'espoir et la flamme intérieure, je crois que c'est extrêmement inspirant. On est dans une époque pleine de raisons déprimées, pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Et on compte sur les jeunes pour se battre sans relâche, en prenant exemple sur ce qu'il y a eu de meilleur dans le passé et en rêvant de ce qu'il y a dans le meilleur dans le futur, à longue échéance.
Dernière petite question. Vous avez fait beaucoup d'études. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre plus tôt que vous n'avez pas appris dans vos cahiers d'école ?
Bon, pour se battre dans la vie, il y a beaucoup de modèles différents. J'ai fait le plus d'études qu'on puisse imaginer, peut-être. Mais en ce moment, je suis engagé, là, en ce moment, au moment où on se parle, dans la primaire écologiste, en soutien résolu, déterminé à Delphine Bateau, qui, elle, n'a pas fait d'études après le bac, et dont j'admire la capacité à se saisir des enjeux, à aller en profondeur dans leur étude, à se battre pour eux. Cet attelage que je forme avec Delphine Bateau, il vous montre bien qu'il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'études, peu d'études. C'est secondaire par rapport à d'autres choses. L'état d'esprit, la ténacité, la capacité à travailler, à apprendre de la vie. Et j'ai plus quelle était votre question là. J'ai juste réagi par rapport à la question des études.
Est-ce que vous auriez aimé apprendre plus tôt que vous n'avez pas...
Apprendre plus tôt.
Ouais.
Non, j'ai pas de... Il y a énormément de choses que la vie et que la recherche m'a apprises. Mais j'ai commencé par apprendre dans les livres. Rétrospectivement, c'est pas un problème pour moi. Enfin, j'assume ça. Il y a d'autres modèles. Il y en a qui préféreront apprendre d'abord dans la vie et ensuite dans les livres. Ou d'abord en se frottant à la réalité de professionnelle. Mais c'était comme ça. Ah si. Un autre conseil que je donnerais. Et puis ça sera le dernier. Enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est vraiment, quand vous enseignez un sujet, quand vous le portez, alors pour moi, ça a été mes cours en amphithéâtre, les livres que j'ai écrits, les positions que j'ai défendues à l'Assemblée nationale. Quand vous portez un sujet, quand vous faites l'effort vraiment de comprendre ce que vous allez dire et pourquoi vous faites ça, vous maîtrisez votre sujet 10 fois mieux que si vous vous contentez de l'apprendre.
C'est très juste, oui. Merci beaucoup, Cédric Villani.
Je vous en prie, Victoria Guillaumont. Bon courage à Nouvel Oeil pour continuer à poser votre regard sur le monde.
Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.